Bonjour à tous, c'est mieux comme ça. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je suis venu de loin, mais vous en valez le coup. Vous connaissez la pub de Marianne. Vous me valez bien. Donc effectivement, j'étais présenté, Moussa Kedine est là, donc c'est enfin, la table à plein de choses. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous, parce que je suis aussi né dans un quartier qui n'était pas facile, avec des difficultés, des frères et sœurs. Bon, j'ai eu un peu une petite envie de sortir, puis effectivement, j'ai suivi des études, un cursus, et puis pour arriver à Paris à l'école des études en sciences sociales, qui est un grand établissement et qui forme notamment à des sujets un petit peu stratégiques au niveau social. Donc, j'ai eu la chance d'être recruté par une grande entreprise et de travailler sur la question du développement durable, qui est un sujet un petit peu d'actualité. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous ici. Moi, je tiens à remercier le lycée qui a été à l'initiative de cette rencontre, et puis l'Université dans les savoirs, notamment Mathilde Dessin qui m'a accompagné ce matin. Donc voilà, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est que sur les grandes questions de l'environnement, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'environnement si on ne parle pas du développement durable en général. Je vais vous montrer que le développement durable, l'environnement, c'est juste une partie du développement durable. Et on va tout de suite enchaîner par un clip que je voudrais vous montrer pour introduire le sujet.
Thank you.
Nucléaire, soit une catastrophe écologique. Et donc ça montre à quoi peut ressembler le monde très rapidement d'ici 30, 40, 50 ans si on ne fait pas chacun, chacune attention à, au monde qui est entre nos mains. Alors, pour introduire sur le sujet, je peux passer la slide suivante. Je vous dirais peut-être pour commencer cette conférence que on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Alors ce proverbe, on l'attribue souvent à Saint-Exupéry. Et en fait, après quelques petites recherches, il se trouve que c'est pas Saint-Exupéry, mais c'est des Indiens d'Amérique du Nord qui, comme vous le savez peut-être, ont toujours vécu très très proche de la nature et très très proche notamment des ressources qu'ils pouvaient utiliser. Ils faisaient des prières avant de chasser le bison. Ils lorsqu'il découpait, que ce soit du bois ou qu'il cueillait des fruits, enfin, il les faisait toujours strictement en fonction de leurs besoins et jamais plus. Et donc, cette phrase, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, on n'hérite pas de quelque chose, on emprunte quelque chose à des générations en train d'arriver. Alors, tout ça pour vous amener vers la définition du développement durable. Alors, avant de vous donner cette définition, voilà, vous donner quelques données qui sont importantes, que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être eu connaissance, notamment que 20% des 6 milliards et demi aujourd'hui, des 6 milliards et demi d'habitants sur Terre subsistent avec moins d'un dollar par jour. Donc ça, ce sont des données de l'UNESCO. 10% de la population du globe consomme 70% des biens et des services. Qu'une personne sur 6 dans le monde, sur plus d'un milliard d'êtres humains, n'a pas accès à l'eau. Voilà différents chiffres, et notamment entre 1983 et 2003 à Marseille, on a recensé 500 décès de plus parmi les populations du troisième âge, et notamment en 2003, au moins 50, c'est sûr, qui sont dus à la canicule qui a eu lieu ici, enfin, dans toute la France, mais notamment à Marseille. Alors on pense que 50, c'est un petit nombre, parce que certains ont recensé les décès, mais on n'a pas fait le rapprochement avec l'ensemble des gens qui sont décédés en 83. Donc la canicule de 2003, on sait qu'elle est très probablement liée au réchauffement climatique. Donc les températures augmentent, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors je vous parlais de définition sur la slide suivante. Avant de vous le dire, il faut évoquer la question de l'environnement d'une manière générale. L'environnement, ça n'a pas été une question qui a intéressé les pays ou les gouvernements, puisque durant la révolution industrielle, c'est pour ça que je vous ai mis cette image d'usine qui est assez emblématique de ce qu'il y a eu au moment de la révolution industrielle. Au 19e siècle, on est passé d'une société qui était plutôt basée sur l'agriculture, on cultivait beaucoup, à une société où on a vu apparaître les premières usines, la construction des premières automobiles, l'apparition de la télévision, bref, de beaucoup de produits techniques de grande consommation. Et ça entraînait beaucoup de flux migratoires, soit des pays du Sud notamment, mais pas seulement, de l'Europe, et également à partir des campagnes vers les grandes villes. Donc la révolution industrielle, ça n'a vraiment pas été un moment où on s'est préoccupé de l'environnement. On a commencé à se préoccuper de l'environnement à partir des années 50, 60, 70, quand il y a eu notamment les premiers chocs pétroliers. Donc le choc pétrolier, vous savez qu'à partir de 1970, on a commencé à comprendre que les ressources étaient limitées, qu'il ne va pas y avoir toujours du pétrole, il va y avoir toujours du gaz. Et à partir de là, on a commencé à avoir une vraie réflexion sur ce qu'on appelle les ressources naturelles. C'est-à-dire gaz, pétrole, enfin tout ce qu'on tire du sol et qui peut nous servir comme énergie pour faire fonctionner notamment les différents usines ou véhicules, etc., que l'on a chez soi. Donc, la révolution industrielle, 1970, le commencement d'une réflexion sur le fait que les ressources sont limitées et qu'il va falloir peut-être faire attention. Alors, sur la slide suivante, voilà la question de l'interrogation profonde, on peut la résumer sur ce que je vous ai mis ici, à savoir que ce sont des dommages d'abord liés au développement industriel qui ont commencé à se produire dans les années 70, avec notamment des risques liés à la santé, à la qualité de la vie et au mode de vie. On a quitté les campagnes pour aller vers les villes, et souvent, dans les villes, on s'est entassé dans des quartiers. Et donc, notamment, la plupart des quartiers aujourd'hui qu'on a en France, qu'on appelle quartiers sensibles, etc. Donc, ça a d'abord été des cités où les ouvriers, avant ou après la Seconde Guerre mondiale, donc, sont venus habiter de manière assez dense. Donc, le second point, c'est comment le développement qu'il y a aujourd'hui dans les pays qui fonctionne plutôt bien au nord, on voit que s'il n'y a pas un développement également dans les pays du sud, il va y avoir de gros problèmes. Parce que si il y a beaucoup de richesses et qu'il y a une qualité de la vie dans les pays du nord, ce qui peut très fortement se produire, et c'est le cas aujourd'hui, c'est que des gens qui vivent au sud veulent absolument venir ici, quel que soit le prix à payer. Et on entend tous les jours à la télévision un nombre de gens, et notamment des jeunes qui ont votre âge, qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée ou des pays pauvres, donc dans des conditions souvent dramatiques, et on repêche tous les jours des jeunes maghrébins, des jeunes africains ou d'autres pays
sur les rives de la Méditerranée parce qu'ils ont essayé de traverser la Méditerranée et de venir en Europe. Et puis, la question fondamentale de l'environnement planétaire, puisque les industries qui ont servi à construire des voitures, à construire des télévisions, des biens de consommation, ça génère de l'énergie. Pardon. Ça génère de l'énergie, et cette énergie, c'est souvent de la pollution qu'on envoie dans les rivières, qu'on envoie vers le ciel. Et aujourd'hui, il y a une vraie question sur comment continuer à produire des choses, des biens de consommation, sans rejeter dans l'atmosphère de la pollution à quelque niveau que ce soit. Et puis, la dernière question qui est la plus importante, c'est comment aujourd'hui on va faire pour les années qui viennent. Parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains, il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus de voitures, il faut de plus en plus de pétrole. Donc comment on va faire pour être de plus en plus nombreux et consommer de plus en plus et avoir de la production qui entraîne de moins en moins de pollution. Donc ça, c'est le vrai enjeu sur les 30 ou les 50 prochaines années. Alors sur la slide suivante, je vous ai mis cette affiche qui est un tableau de Caillebotte, qui est un peintre du 19e. Notamment, c'est une image des rues de Paris, probablement le quartier Haussmann, pour vous parler de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on demande à des gens dans la rue, quartier Haussmann ou quartier de la Viste à Marseille, c'est la même réponse. On ne sait pas ce que c'est que le développement durable, on en entend parler, alors c'est pareil, il y a un ministère, bon, il ne faut pas polluer, il faut essayer d'utiliser les papiers dans les poubelles, des choses assez basiques. Donc, lorsqu'on interroge les gens, je vais vous montrer un petit fromage, donc qui est juste après, voilà, qui vous montre le niveau de l'information du public sur ce que c'est que le développement durable, les enjeux du climat, les enjeux de l'environnement. Et on voit que lorsqu'on pose la question « Quelle source d'information, à votre avis, dit la vérité en ce qui concerne la protection de l'environnement ?» On voit sur le fromage que, voilà, il y a un certain nombre de sources d'information, les organismes de protection de l'environnement, les scientifiques, etc. Par contre, les pourcentages que vous avez à côté, c'est le degré qu'on accorde à ce qui nous a été raconté. Est-ce que l'on croit ou pas ces sources lorsqu'elles disent un certain nombre de renseignements? Et vous voyez qu'il n'y a que 3% des Français qui croient à ce que racontent les pouvoirs publics, il n'y a qu'un pour cent qui croient les syndicats, les partis politiques encore moins, l'industrie, alors on n'y croit pas du tout, ce qui est en partie justifié, et puis les médias, les enseignants, l'école et l'université, on leur donne entre 5 et 10% de crédit. Donc, et le chiffre le plus important, c'est celui que vous avez en bas, qui est un sondage de 2006, où 57% des personnes interrogées disent qu'ils ne savent pas ce qu'est le développement durable. Donc si on passe à la slide suivante, voilà, une définition que l'on pourrait vous donner sur le développement durable, c'est pour ça que c'était important de situer l'environnement dans les autres sphères du développement durable. Vous voyez que le développement durable, c'est effectivement un côté écologique. Mais il y a un volet social qui est très très important. Si on continue à être de plus en plus nombreux sur Terre, comment faire pour continuer à avoir une gestion des déchets, à faire en sorte que, notamment les plages, comme on est au bord de la Méditerranée ici, soient de moins en moins polluées par notamment le tourisme, etc. Donc le tourisme dit également le volet économique, donc il y a toujours du business. Donc comment faire en sorte que faire de l'argent, faire du développement, protéger la nature et en même temps faire en sorte que les gens qui vivent dans cet environnement vivent bien, c'est l'ensemble de ces trois choses bien imbriquées qui est une définition du développement durable. Et vous voyez que les cercles se concentrent autour d'adjectifs, donc de viabilité, l'aspect vivable, l'aspect équitable, et lorsque c'est parfaitement bien équilibré, on est dans du développement durable. La définition donc, qui est la plus connue du développement durable, c'est celle que je vous ai mise de Gro Harlem Brundtland, qui était une ministre norvégienne, et qui dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, à nous-mêmes, sans compromettre la capacité des générations futures à assurer leurs besoins. Donc comment faire aujourd'hui pour qu'on consomme des choses et que demain vos enfants ne se retrouvent pas dans le monde qu'on a pu voir sur le clip que je vous ai mis précédemment, et qu'ils aient assez de ressources pour ne pas respirer avec des masques ou pour avoir une nature qui soit encore celle que l'on a aujourd'hui. Alors après cette définition,
Voilà, vous parlez également d'un aspect qui est important, c'est celui de la sensibilisation que commencent à avoir les pays. Donc depuis 1970, je vous le disais, on a commencé à prendre conscience de l'importance du développement durable et de la protection de l'environnement. Et donc je vais vous montrer, donc après cette image, voilà, les différentes conférences qui ont pu avoir lieu sur le développement durable et l'importance qu'elles ont eue notamment dans l'impact des pays. Alors, on ne va pas parler de toutes, mais voilà, il y a eu différentes conférences, vous avez probablement entendu parler un petit peu dans la presse, notamment Kyoto. On parle souvent du protocole de Kyoto et le fait que voilà, certains pays ont signé ce protocole, d'autres ne l'ont pas fait. Alors les États-Unis aujourd'hui n'ont pas signé le protocole de Kyoto. C'est le pays qui pollue le plus l'atmosphère. La France l'a signé, 170 pays l'ont signé. Donc si vous devez retenir que deux ou trois de ces conférences, retenez celle de 87, qui est donc le rapport de cette ministre norvégienne, qui a donné la première définition du développement durable. La deuxième qui me paraît importante également, c'est celle de Rio en 1992. Alors à Rio, donc, qu'on a appelé le deuxième sommet de la Terre, on appelle souvent ces réunions qui rassemblent l'ensemble des pays signataires pour la protection de l'environnement, le sommet de la Terre. Donc le protocole de la conférence de Rio, pardon, qui était le deuxième sommet de la Terre, c'est la première réunion qui a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement et où il y a eu une signature. Donc, qui a engagé la plupart des pays avec des objectifs chiffrés. Ces objectifs sont devenus des obligations avec le protocole de Kyoto. Donc aujourd'hui, l'ensemble des pays, il y en a 178 qui ont signé le protocole, se sont engagés à réduire la pollution qu'ils rejettent dans l'atmosphère. Alors notamment des gaz à effet de serre, et je vais vous en parler. Alors, le sommet du millénaire a été aussi important parce que un rapport a été remis par rapport au Club de Rome, et qui a donné une perspective de ce que va être la Terre en 2100. Et donc ce rapport, qui a été donné à partir d'une perspective sur les 50 ou sur le siècle qui arrive, disait que probablement à partir de 2050 ou 2060, si on continue à fonctionner comme on le fait aujourd'hui, à consommer autant de pétrole, à rejeter autant de déchets, et à ne pas faire attention à l'environnement, il va probablement y avoir... donc une chute très importante du nombre d'êtres humains sur Terre, tout simplement parce qu'à un moment, si effectivement les ressources ne sont pas gérées, on ne va plus avoir de pétrole. Donc s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de voiture. Et donc s'il n'y a plus de voiture, donc, les industries d'un certain nombre de pays vont être complètement paralysées. Il y aura encore des poches. Il va probablement y avoir également un certain nombre de guerres civiles. Voilà, il y a eu un rapport donc, assez alarmant qui a été fait. Si ça vous intéresse de le lire, allez sur le site, ça ressemble un petit peu à Mad Max, hein, ce qu'on présente. En disant que si on continue effectivement à cette échelle-là, on va dans le monde. Voilà donc quelques réunions importantes, retenez donc 87, 92 et puis 97, qui sont probablement les réunions importantes. Il y en a une qui a eu lieu à Bali, peut-être que vous avez suivi un peu l'actualité. En 2007, un certain nombre de pays se sont également rassemblés pour réfléchir sur la pollution d'un certain nombre de signataires. Et une des nouveautés, c'est que l'Australie, qui est une grande copine des États-Unis, a signé le protocole de Kyoto. Et donc, il y a des élections en novembre prochain aux États-Unis. On espère que le prochain candidat va être un peu sensible et qu'il va signer ce protocole. Alors, sauver la planète. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de gens que vous connaissez. Certains que vous connaissez bien, d'autres que vous connaissez un peu moins bien. Celui que vous connaissez le mieux, c'est Jamel Debbouze, donc qui s'est engagé notamment personnellement avec un certain nombre d'associations de l'environnement, donc qui vient de temps en temps faire des speeches ou des sketchs, notamment avec le WWF, si vous connaissez cet organisme de protection de l'environnement et de la nature. Yannick Noah également, qui a créé une association, notamment en direction des quartiers un peu difficiles, qui s'appelle Faites le Mur, donc la fête comme la fête, F-E-T-E, et donc qui aide dans des quartiers, des associations, et qui fournit donc tout le matériel à des jeunes qui ont envie de se consacrer au tennis, des jeunes filles et des jeunes garçons, et donc à peu près une dizaine de villes en France où cette association existe. Et puis il y a également un engagement avec Greenpeace notamment. Donc ça, c'est assez récent. Pour la petite histoire,
Donc on l'avait rencontré dans une conférence où il était venu parler de ça. Et donc il est venu avec son gros 4x4. Le 4x4 c'est très très polluant. Et donc tout le monde avait une petite voiture verte qui n'en s'aimait pas. Et lui il est arrivé avec son gros 4x4 et tout le monde lui a dit tu roules en 4x4. Et je dis ben oui, pourquoi? Et donc on m'a expliqué durant la conférence que les 4x4 ça rejette beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et que ça pose un grand problème. Et c'est depuis là qu'il a changé de voiture. Bon, les autres, vous les connaissez un peu, c'est le collègue Lou, Hubert Reeves en bas qui ressemble un peu au Père Noël, qui est un grand astronome que l'on voit souvent l'été, qui est un astrophysicien très très important. Et puis le dernier qui est en haut à votre droite, donc qui est l'ancien vice-président américain Al Gore, qui s'est engagé notamment sur la protection de l'environnement. Il a un film que vous pouvez voir sur Dailymotion ou sur YouTube, la génération numérique. Et donc il montre en fait l'impact que a sur le climat l'augmentation de la température. Vous avez remarqué, depuis 5 ou 6 ans, on entend tout le temps parler de tornades, alors avec différents noms. Aux États-Unis, ce qui s'est passé en Louisiane, vous l'avez peut-être suivi. Donc le tsunami également qui a eu dans le Pacifique. Bref, donc il a tout un film qui est actuellement diffusé pour la protection de la nature. Et il vient de recevoir le prix Nobel avec un groupe de scientifiques donc, qui travaillent sur justement la question du climat. Donc voilà, le développement durable, donc comme vous voyez, un aspect de vivabilité, un aspect équitable, un aspect durable, et c'est l'idée vraiment de réconcilier ensemble l'efficacité économique. On a le droit de faire une société aujourd'hui, demain vous allez peut-être créer votre entreprise, puisque je sais que vous êtes sur des métiers techniques, et aujourd'hui, c'est une vraie chance pour vous, le métier sur lequel vous êtes, et là je fais une petite parenthèse sur les différents métiers dans lesquels vous êtes en train de faire du cursus. Il y a aujourd'hui, sur la question de l'environnement et la question de certains métiers techniques liés à l'environnement, ou au social d'ailleurs, donc des vraies opportunités, parce que le développement durable, aujourd'hui on est vraiment allant un ou allant deux du développement durable, mais ça va être une très très grosse opportunité pour créer des entreprises. Notamment, il y a beaucoup d'entreprises liées aux services et aux services à la personne. Notamment, par exemple, les seniors. Aujourd'hui, on a une démographie dans notre pays qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Donc, ces personnes âgées, il va falloir s'en occuper. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se créer pour s'occuper de ces personnes. De même qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, donc qui veulent avoir à la maison un certain nombre de services qui sont assurés. Bref, il y a une grande opportunité là-dessus. Environnement, même chose. Donc, autour de la gestion des déchets, aujourd'hui, il y a un vrai business qui est en train de se faire. Donc voilà comment essayer de réconcilier cet aspect économique. Donc, on a le droit de faire de l'argent, mais comment est-ce qu'on fait de l'argent en même temps qu'on a une équité sociale? Donc, quand on va recruter, on ne va pas prendre que des gens d'un certain profil. On va dire, par exemple, bah, les filles, non, pas de femmes dans mon entreprise, puisqu'elles vont avoir un bébé, elles n'est pas là, bref, c'est compliqué. Ou je ne vais pas prendre des gens d'un certain quartier, parce que le quartier là-bas, bon, je sais que durant les émeutes, voilà, ça s'est pas bien passé, j'ai pas envie de prendre des gens des quartiers. Bref, d'avoir une vraie vision de non-discrimination, quel que soit l'âge, l'origine, etc. Et puis en même temps, très important, le côté environnemental. Donc comment est-ce que je fais attention, lorsque j'ai une entreprise, bah, je fais attention à bien éteindre l'électricité en partant, on va en parler dans les éco-gestes, mais voilà, de concilier ces trois niveaux. Donc là, on entame le premier volet qui est celui lié à l'économie. Si on peut passer à la slide suivante, merci. Voilà une image qui date pour la première du milieu des années 80 et puis pour la seconde des années 90. Donc, l'économie aujourd'hui, c'est surtout une économie de pays du Nord. On caricature souvent par l'Occident. Alors, on ne sait pas si certains pays y sont ou n'y sont pas. Est-ce que le Japon est occidental? Est-ce que la Turquie est occidentale ou pas? Et à côté de ce nord où tout se passe bien, où il y a de l'argent, où les gens vivent plutôt bien, avec un taux d'espérance de vie élevé, avec un niveau de vie assez confortable, à côté il y a effectivement des pays du sud. Vous avez tous vu la télévision avec cette image d'un ministre français en Éthiopie ou au Soudan en train de porter des sacs de riz pour les populations qui connaissent la famine. Voilà, l'économie c'est aussi ce volet-là qu'on ne voit pas souvent. C'est pas seulement des pays très riches. Donc je vais vous montrer un petit graphique que voilà. Ça vous montre deux choses. L'évolution de la richesse des pays du Nord
et celle, alors qu'on ne voit pas très bien, en bas, donc c'est le tiers le plus pauvre et le tiers intermédiaire. C'est-à-dire, en bas, les pays les plus pauvres, comment ils ont évolué dans leur richesse, et les pays les plus riches, comment ils ont évolué dans leur richesse. Et donc, vous voyez qu'entre 70 et 95, alors ce qu'on appelle le PNB par habitant, c'est quelque chose qui a l'air un peu compliqué, mais c'est très simple, c'est le produit intérieur brut, donc c'est tout ce qu'un pays a gagné, donc comme argent, comme production nationale, ce qui a été vendu, et on le divise par le nombre d'habitants, pour savoir à peu près combien ça représente. Et donc vous voyez que c'est en dollars, donc on est passé ici de 10 000 dollars à peu près pour les pays riches, et on est aujourd'hui autour de 20 000, c'est même un petit peu plus dans certains pays. Et les pays pauvres, vous voyez qu'il n'y a eu aucune évolution quasiment. Donc cet aspect économique qui est souvent quelque chose qui est mis en avant par les conférences internationales sur l'environnement, donc souvent aujourd'hui on essaie de relier le social à l'environnemental en disant attention, le développement durable c'est peut-être un problème de pays riches. Les gens qui sont dans les pays pauvres, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de la nature et de s'occuper des déchets. Parce qu'il faut déjà qu'ils mangent, il faut déjà qu'ils puissent assurer le minimum des niveaux de vie. Et quand on voit la pauvreté des pays pauvres, il faut peut-être aujourd'hui, comme le monde est devenu vraiment interconnecté, et pas seulement par le net, les liens entre les pays du Nord et les pays du Sud sont tellement importants que la plupart des pays signataires, aujourd'hui, défendent l'idée qu'il faut un co-développement. Donc en essayant de voir comment on peut annuler la dette de certains pays pauvres, comment essayer d'avoir des échanges, notamment des transferts d'industrie, de technologie, etc., etc. Alors vous voyez, le niveau économique, donc ça date de 1999. Sur la slide suivante, voilà, un sujet sur lequel je voulais aussi vous sensibiliser, qui est important. Le business aujourd'hui, c'est aussi du business durable. Donc comment est-ce qu'on peut continuer à faire du commerce? Vous êtes sur des métiers qui sont plus ou moins liés à ce sujet. Comment est-ce que l'on peut continuer à faire du commerce en essayant d'être justement attentif à l'environnement, attentif à la question sociale, etc. Alors, commerce éthique, commerce équitable, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le commerce équitable ou le commerce éthique? La différence, c'est quoi? Commerce éthique? Non? Commerce équitable, vous en avez entendu parler. Qui a déjà entendu parler du commerce équitable? Levez la main. Ouais. Acheter du commerce équitable, des produits de commerce équitable. Non, personne n'a jamais acheté. Bon, si je reviens vous voir, vous amènerez des tablettes de chocolat du commerce équitable qui sont très très bonnes. Alors, la différence entre éthique et équitable, déjà. Alors, le commerce éthique, il ne faut pas le confondre avec le commerce équitable. Alors, j'ai eu la chance de faire un petit peu de grec et un petit peu de latin. Je vais vous en faire profiter. Donc, éthique, donc c'est un mot grec, mais qui a aussi son versant latin. Éthiquer, donc la morale, comment essayer d'injecter du bien dans les actions que l'on fait. Et c'est éthicus en latin. Donc, l'idée du commerce éthique, c'est comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu moral, l'idée du bien dans le commerce. Donc on l'a souvent résumé aujourd'hui sur tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Donc vous avez tous peut-être entendu parler de Nike à un moment qui a été alpagué par des médias parce qu'elle faisait travailler des enfants dans les pays du Sud, notamment en Chine. Donc les conventions internationales interdisent aux enfants de moins de 10 ans de travailler. Et donc Nike qui produit... beaucoup de choses que vous portez peut-être sur vous, hein, c'est des pauvres enfants chinois à une époque qui les ont produits. Donc le commerce éthique, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que l'on peut continuer à faire de la production sans faire travailler des enfants? Est-ce que les personnes qui travaillent pour nous vivent dans des conditions minimum d'hygiène et de sécurité, qui ne soient pas à plus de 4 par chambre, qui aient des sanitaires, des douches, etc., etc. Donc il y a des organismes internationaux qui sont chargés d'aller faire des audits pour voir si effectivement les entreprises elles sont dans ce commerce un peu éthique où les droits de l'homme et les droits du travail sont respectés. Alors le commerce équitable, c'est un petit peu différent. Le commerce équitable, c'est comment essayer de privilégier, quand on le peut, dans le commerce, des pays du Sud. Donc notamment en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Donc on a le choix d'acheter un produit qui vient des États-Unis ou d'Angleterre ou d'Allemagne. On ne va pas le faire, on va plutôt acheter un produit qui vient d'un pays du Sud et qui va faire travailler des populations pauvres. Alors là, je vais vous passer quelques petits films. Qui devrait vous... Alors, est-ce qu'on peut éteindre ce film ?
Il plante, il cultive, il paie les intermédiaires et hop, voilà ce qu'il reste.
Le café.
T'as tandis qu'elle est plus qu'à fait équitable. Équitable. Papa Blo, il gagne mieux sa vie. Il envoie ses gosses à l'école, il préserve son environnement.
Attends, ça veut dire le café.
Ah non, mais le chocolat, c'est pareil. Celui-là, là, le chocolat, c'est zéro pour tout le monde. Pablo, il gagne rien avec ça. Tandis qu'avec du chocolat.
Équitable.
Bien. Et ben Pablo, il travaille dans la sécurité, il a accès aux soins.
Mais c'est qui Pablo?
Non, mais je dis ça comme ça. Les habits.
Ah, non, non, pas les habits, ça va, j'ai compris.
Si, les habits, le coton, là, regarde. Et un, à cause de la bourse. Un, à cause des spectateurs. Et. Hop.
Mais ça, c'est pas mal comme ça.
Ah,
t'es drôle. Ah ouais. Bon, ben moi, c'est clair. T'aurais pas payé pour faire les courses, justement.
Équitable.
Bon, un dernier pour la route. C'est pas une marque, hein, comme vous voyez, hein, vous achetez des produits chez Auchan, dans les grandes surfaces aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc le petit sigle que vous voyez en bas, c'est pas une marque, c'est le label. C'est-à-dire que le produit, les équipes du label Max Avelar sont allées sur place, ont vérifié qu'il y a une coopérative, que. Alors, donc je vais peut-être rappeler, ça j'ai oublié de le dire. Si vous mettez la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Voilà, le commerce équitable, ce que vous devez retenir, c'est que c'est toujours des petits producteurs, donc de café, de chocolat, de différents produits, qui se rassemblent en coopérative et une entreprise accepte de travailler avec cette coopérative et de lui verser le prix du marché. Un prix du marché qui est constant. C'est-à-dire qu'on va acheter le tuyau de café, n'importe quoi, à 2 euros. Si le prix du café chute, on continue de donner le même tarif à la coopérative. Alors par contre, du côté de la coopérative, elle doit redistribuer équitablement en fonction des personnes qui travaillent dans cette coopérative, mais en plus, donc protéger l'environnement. Et troisième point qui est important, c'est de mettre une partie de l'argent dans une caisse pour des projets sociaux locaux, hôpitaux, écoles. Donc dans le dernier film que vous avez vu, c'est une vraie coopérative qui est au Sénégal, je crois, et c'est une vraie école. Vous avez vu les enfants qui allaient à l'école, ça n'existait pas auparavant. Donc voilà, ça permet d'une part d'assurer un minimum de revenus aux producteurs, deuxièmement d'assurer des projets de création de différents types écoles et types hôpital et d'avoir un revenu régulier. Voilà, ça c'est l'idée générale du commerce équitable. Donc là vous avez un petit plan qui vous montre sur une banane ce qui revient aux producteurs. On passe de 12 centimes à pratiquement 3 fois plus, on passe à 31 centimes et donc ça on lui garantit qu'il l'aura tout le temps, même s'il y a une chute du prix du café, du prix du cacao qui sert à faire le chocolat, etc. On continue de lui verser ça. Voilà, c'est ça l'idée du commerce équitable. Donc voilà, peut-être qu'on va passer sans trop de transition à la suite. Le côté environnement. Alors, le côté environnement, effectivement, c'est un sujet, c'est celui sur lequel on parle souvent le plus. Là, je vous ai mis un schéma qui parle de lui-même. Alors, notamment, sur le côté, vous avez l'augmentation des températures sur Terre. Donc, depuis le siècle dernier, donc jusque l'an 2100. Vous voyez comment les hausses des températures donc vont de plus en plus augmenter. Et sur la gauche, vous avez le Groenland et l'état du Groenland, donc en 92 et 10 ans plus tard. Et vous voyez comment en rouge, il y a des zones de fonte donc, qui caractérisent bien que la température au niveau terrestre elle a augmenté et que ça fait notamment fondre les pôles. Cette fonte de la neige va entraîner une augmentation du niveau de la mer dans un certain nombre de pays, notamment en France. On sait qu'il va y avoir des tas d'endroits qui vont être complètement inondés par la mer. Et le deuxième impact que ça va avoir, et là on va passer à la slide suivante, c'est notamment ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, ils sont liés à beaucoup de choses, notamment à l'augmentation de la population, et ça bon, on n'y peut pas grand chose. À l'augmentation de la croissance de l'énergie qui est utilisée et qui entraîne également un réchauffement également à cet effet d'augmentation de la température. Donc là je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez que ces gaz à effet de serre donc, protègent la Terre, et c'est pour ça que les rayons du soleil lorsqu'ils passent à travers l'atmosphère et puis cette couche donc des gaz à effet de serre donc, lorsqu'il touche la Terre, donc ne nous brûle pas. C'est grâce à cette atmosphère terrestre. Et donc, la température qui arrive du Soleil se retrouve confinée à l'intérieur d'une sorte de bulle. Ça fait un petit peu un effet cocotte-minute. Et la chaleur est retenue par les gaz à effet de serre qui s'installent dans l'atmosphère et qui forment une sorte d'enveloppe et qui confinent un petit peu la Terre. Ce qui fait que la température reste enfermée donc à l'intérieur de cette enveloppe des gaz à effet de serre. Donc moins il y en a et mieux c'est, mais il se trouve qu'il y en a de plus en plus. Et donc c'est ça le danger. Alors dans la diapositive suivante, je vous montre notamment une des voies possibles pour réduire les gaz à effet de serre. C'est les véhicules électriques par exemple, d'arrêter de faire fonctionner les véhicules avec du pétrole ou du gaz, parce que ça revient un petit peu à la même chose, et d'essayer donc de les faire fonctionner avec des économies, avec des énergies renouvelables. Donc ça peut être l'électricité, comme c'est le cas ici, c'est un prototype qui fonctionne bien, qui est souvent acheté par un certain nombre de municipalités, des clubs de golf, etc. Ça marche très bien aux États-Unis et dans un certain nombre de pays anglo-saxons. On commence un petit peu à s'y mettre aussi. On commence à avoir des bus électriques ou des bus qui fonctionnent au gaz de ville, c'est souvent écrit dessus. Et puis, une deuxième possibilité également, c'est l'éolien. Donc, quand vous prenez le TGV, on l'a pris ce matin, on voit entre Avignon et Marseille, donc un tas d'éoliennes qui permettent, donc en faisant tourner ces éoliennes grâce au vent, donc c'est de l'énergie gratuite, donc de produire de l'électricité et d'entraîner moins de gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère. Alors, c'est pas pour vous effrayer, mais aujourd'hui, on sait que il y a à peu près en France 3 tonnes équivalent, ce qu'on appelle tonnes équivalent carbone, qui sont rejetées par l'atmosphère, donc par an et par habitant. Si on rapporte ça aux 6 milliards d'êtres humains aujourd'hui, ça nous fait, si on fait le calcul, à peu près 3,2 milliards de tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère chaque année. Les protocoles de Kyoto dont je vous ai parlé tout à l'heure se sont engagés à une réduction par 4 du nombre de quantités de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère. Donc ces quantités de CO2, si elles doivent être divisées par 4, donc si on rapporte tout ce qui est rejeté aujourd'hui, on divise par 4 et qu'on divise par le nombre de personnes vivant sur Terre, donc on arrive à un chiffre de 500 kg équivalent carbone rejeté dans l'atmosphère. 500 kg équivalent carbone, si vous disposez que de ça pendant un an pour ne pas impacter sur l'atmosphère et ne pas faire monter la température, ça représente un aller-retour Paris-New York, où ça représente 12 km en voiture. Donc ça veut dire que si on veut vraiment réduire par 4 les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si vous faites votre aller-retour, il faut absolument plus rien faire. Il ne faut plus allumer l'électricité chez vous, il ne faut plus rouler en voiture, il ne faut plus prendre le bus. Donc c'est quasi mission impossible. Donc on sait que quels que soient les efforts qui vont être faits pour baisser donc le nombre de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère, ça va être quelque chose de très très compliqué. Donc on est persuadé que la température va continuer d'augmenter parce qu'il va y avoir de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. Bon, et puis la bonne c'est que malgré tout, les États se sont engagés donc à des réductions drastiques. Et donc là, avec Bali, la dernière réunion, c'est devenu encore plus drastique. Donc là, l'ensemble des pays se sont vraiment engagés. Donc la plupart des industries se sont engagées à réduire les quantités de CO2. On le voit d'ailleurs dans les publicités qui vendent les voitures. À une époque, on parlait de la vitesse, entre 0 et 100 km, combien on faisait. Après, on a commencé à parler de la consommation de carburant, pour dire qu'une voiture valait le coup parce qu'elle ne consommait que 6,2 litres au 100. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du nombre de grammes de CO2 qu'elle rejette dans l'atmosphère. Donc si vous faites attention, aujourd'hui, de plus en plus à côté de la voiture, vous avez un petit chiffre qui dit, voilà, ça rejette 160, 180 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Et de plus en plus, les gens font attention donc, à ce volume. Alors, petite image humoristique. Je parle du réchauffement climatique. Donc voilà, entre 1900 et 2006. Bon, au-delà de l'anecdote, voilà, l'idée de vous sensibiliser au fait que la température elle augmente. Et si la température augmente, c'est aussi un petit peu lié à ce que vous consommez. Donc essayez de faire un impact et puis ça va. C'est-à-dire de vous amener petit à petit vers les éco-gestes dont je voulais vous parler. Alors, cela est le suivant. Donc, c'est sur cette diapositive, donc je voulais également vous sensibiliser à ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Bon, on a les gaz à effet de serre d'un côté, avec le carbone qu'on rejette dans l'atmosphère, etc., à cause de l'énergie fossile, tout ce qui vient du sol qui est utilisé. Et puis, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire que pour vos besoins, donc on a créé quelque chose qui s'appelle l'empreinte écologique. Vous pouvez aller le faire chez vous. Si vous avez internet, vous allez sur le site de l'ADEME ou sur le site de www.wwf ou de l'ADEME, ADEM, qui est l'agence nationale qui s'occupe de l'environnement. Donc vous rentrez un petit peu votre mode de vie, l'âge que vous avez, etc. Et on va vous donner donc votre empreinte écologique, c'est-à-dire le nombre de surfaces sur Terre qui est nécessaire à votre survie. Donc on peut rapporter la quantité de surface terrestre dont vous avez besoin pour votre survie parce que Bon, on a fait des calculs assez compliqués, mais grosso modo, on peut rapporter votre consommation en énergie avec ce que vous devez manger pour votre subsistance, etc., à une surface sur Terre nécessaire pour la survie des uns et des autres. Donc ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Alors si l'ensemble des êtres humains sur Terre vivaient avec le mode de vie d'un Français moyen, il nous faudrait 5,2 hectares terrestres par habitant. Donc si on multiplie par les 6 milliards et demi d'habitants, il nous faudrait 2 ou 3 planètes. Est-ce que ça ne suffirait pas ? Si on vit avec le mode de vie américain, qui est un mode de vie qui est supérieur au nôtre, les Américains sont 7% de la population mondiale et ils consomment 25% des ressources, le pétrole, le gaz, l'électricité, etc. Donc si on vit avec leur mode de vie, ce n'est pas 3 planètes qu'il faudrait, c'est 5 ou 6. Donc aujourd'hui, certains se complaisent à dire malheureusement que les pays du Sud ne vivent pas si bien que nous, parce qu'effectivement, comment on va faire lorsque tout le monde vivra à peu près au même niveau de vie. Alors la grande question sur cette condition de l'empreinte écologique, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les deux grands géants, que sont l'Inde et la Chine. Parce que sur l'Inde et la Chine, rien que sur l'Inde, on sait qu'il va y avoir 500 millions de véhicules en plus d'ici à 10 ans. Avec tous les véhicules déjà en circulation, on est déjà en train de rejeter trop de pollution dans l'atmosphère. Et alors quand il va y avoir les 500 millions de véhicules indiens, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et je ne vous parle pas donc du 1,2 milliard en Chine avec des gros besoins en consommation, etc., etc. Alors toujours sur le volet environnement, je voulais également vous parler d'un sujet important. Certains d'entre vous connaissent peut-être le dessin animé de Maya l'abeille. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les abeilles? Donc il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se produire. L'abeille est apparue à peu près il y a 80 millions d'années. On l'a retrouvée sur des galeries rupestres, elle a été dessinée. On sait qu'à l'époque de la préhistoire, on connaissait déjà l'abeille et puis le fait qu'elle produisait du miel et on consommait déjà le miel. En Égypte aussi, on a des papyrus qui nous montrent des abeilles avec la consommation du miel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis à peu près une petite dizaine d'années, le nombre des abeilles est en train de chuter de manière inexplicable. Donc on ne sait pas pourquoi les abeilles meurent. Donc il y a certaines régions du monde qui ont perdu entre 60 et 80% des abeilles qui y vivaient, notamment aux États-Unis et en France. Et on ne sait pas expliquer pourquoi. Donc les abeilles sortent de la ruche, partent dans un endroit, se posent et se laissent mourir. Donc il y a plusieurs petites explications, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. On pense que c'est probablement dû à l'effet des pesticides qui sont utilisés. Donc quand on produit du maïs ou différentes agricultures, on passe souvent avec des avions pour saupoudrer des pesticides sur les champs pour éviter qu'ils soient parasités par des animaux nuisibles qui gênent la récolte. Donc on sait que ces pesticides, certains sont dangereux. Deux ont été interdits, notamment le bouchot. Et on pense que ces pesticides qui ont été utilisés ont joué un rôle sur le système nerveux des abeilles. Et que de ce fait, elles auraient effectivement de plus en plus de mal à s'orienter, notamment par rapport au soleil. Ça, c'est une explication. Le second, c'est la hausse de la température. On n'est pas persuadé. Bref, il y a un vrai, aujourd'hui, questionnement. Beaucoup de scientifiques sont en train de se pencher très sérieusement sur cette question. Et il se peut que d'ici une durée indéterminée, vous ne pouviez plus consommer de miel parce qu'il n'y aura plus d'abeilles. Alors, ce qui est très grave, au-delà de la consommation du miel, c'est que l'abeille, elle joue un rôle de pollinisation. Donc, lorsqu'elle va de fleur en fleur, elle permet, notamment si on passe la slide suivante, vous voyez des abeilles à l'intérieur des fleurs, et c'est grâce aux abeilles que les fleurs se pollinisent, et notamment que certaines plantes produisent des fruits. Donc si l'abeille disparaît, elle a un rôle dans ce qu'on appelle l'écosystème. Donc si elle disparaît, l'ensemble des fleurs qui étaient pollinisées grâce à elle vont disparaître aussi. Donc c'est pas l'impact que ça peut avoir sur notre vie pour l'instant. Et puis pour finir, une phrase d'Einstein qui est assez inquiétante. Einstein a dit « Si l'abeille disparaît sur Terre, je donne 4 à 5 années à l'humanité. » Du fait de l'impact que ça aura sur l'écosystème. Alors, venons-en maintenant peut-être à ce qu'on appelle les éco-gestes. Alors, vous savez ce que c'est que les éco-gestes ?
Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des gestes qui vous permettent d'économiser de l'énergie ou de protéger l'environnement. Alors, ces éco-gestes, voilà, je vous ai mis quelques exemples sur la question de l'énergie. Il y a les lumières des sanitaires. Alors, notamment, l'usage, par exemple, des toilettes, de sortir sans laissant la lumière allumée. Les salles de réunion, les ordinateurs qui restent en veille, ça consomme beaucoup d'électricité. Les chargeurs de téléphone, les chargeurs de certains appareils, si vous débranchez votre téléphone mais que vous laissez le chargeur continue de consommer. Pour les ordinateurs, c'est pareil. Il faut essayer de privilégier une prise avec un interrupteur qui permet de couper complètement la consommation, parce que même si on met en veille l'ordinateur, il continue de consommer d'électricité. Voilà, la climatisation, de ne pas mettre trop de climatisation. Sur la question des déchets, voilà tout ce qu'on peut aussi faire pour économiser du papier. Dans mon entreprise, depuis un an, on essaie d'économiser le papier. Et on est à peu près 4500 là où je travaille. Et on a économisé 100 tonnes de papier en un an. Et donc, on sait que ça représente à peu près 20 à 30 hectares d'arbres donc qui ont été sauvegardés juste en faisant du recto verso. Parce que souvent, en imprimant recto verso, on va consommer deux fois moins de feuilles. Donc voilà, un certain nombre de choses qu'on peut faire, bouchons, etc. Sur la diapo suivante, d'autres choses, notamment le fait de trier et recycler. Alors il y a une loi qui est facile à retenir, c'est la loi que j'appelle les 3 R pour les déchets, de réduire, de recycler et de réutiliser. Alors réduire, on le fait, donc les bouteilles plastiques par exemple, à la place de les mettre dans vos poubelles, c'est de les écraser, et quand elles sont écrasées, de remettre le bouchon, donc elles prennent beaucoup moins de place dans les sacs poubelles, de recycler quand on peut, notamment les téléphones portables, les plus vieux téléphones qui ressemblent à des frigidaires là, que vous avez. Ça, il y a beaucoup d'associations qui les récupèrent pour faire travailler des personnes en difficulté, parce qu'il y a une directive très importante qui s'appelle déchets électriques et électroniques. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont obligées de recycler tous leurs déchets électriques et électroniques. Donc les téléphones portables en font partie. Et donc il y a beaucoup d'associations d'insertion qui se créent et qui génèrent vraiment du commerce et des emplois. Et qui récupèrent les téléphones portables ou les vieux ordinateurs. Et donc qui démontent les pièces et qui les recyclent vers des sociétés agréées de recyclage. Et puis de réutiliser. Alors il y a certains sites internet. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un réfrigérateur, d'une gazinière, etc., à la place de les jeter, donc ils viennent récupérer gratuitement. Alors, il y en a certains qui sont connus, type Emmaüs par exemple, le font, mais il y a également aujourd'hui beaucoup de sites internet où on peut inscrire un certain nombre d'objets dont on n'a plus besoin, et des gens qui en ont besoin viennent les chercher chez vous. Donc, c'est un canapé, c'est un réfrigérateur, c'est une télé. Donc si vous achetez un écran plat, que vous avez votre vieille télévision, ça peut peut-être servir à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'en acheter, etc., etc. Voilà, puis toujours pour poursuivre sur la sensibilité très vite, donc voilà, l'eau, le carburant, tout ce qu'on peut faire sur la visioconférence, à la place de faire des réunions, il faut des transports où tout le monde est en voiture. La visioconférence, ça permet en un seul endroit, via Internet ou des webcams, de faire des réunions sans que les gens se déplacent. La question du bruit, des achats éthiques, on en a un petit peu parlé. Et puis, donc la pollution, c'est également d'essayer de faire des petits gestes qui sont durables. Des gestes durables, c'est des gestes qui apportent du commerce et du développement, c'est des gestes qui protègent l'environnement, et puis c'est des gestes qui, d'un point de vue écologique, protègent la nature. Alors je vais vous citer un exemple d'éco-gestes. Chaque Français produit en moyenne 450 kg de déchets par an. Donc 450 kg de déchets par an, si vous faites le calcul, ça devient énorme au niveau de la France. Ces déchets, on peut donc les recycler, d'une part, mais également sur la question de l'eau, c'est quelque chose qui a un impact important. Sur l'eau, l'écoulement d'eau, par exemple, quand vous vous brossez les dents, beaucoup de gens se brossent les dents et puis laissent l'eau couler. Et on se trouve vite à entre 20 et 50 litres utilisés, tout simplement parce qu'on s'est brossé les dents, puis qu'entre temps, on a peut-être répondu au téléphone ou je ne sais quoi. Et voilà, de prendre l'habitude pour le brossage de dents ou pour les douches,
Alors les douches, c'est notamment très très important, puisque on sait qu'un bain, c'est à peu près 250 litres, et 250 litres, c'est à peu près 5 douches. On sait qu'une douche, c'est entre 8 et 15 litres à peu près. Donc privilégier, quand vous le pouvez, à la place d'un bain, c'est plutôt une douche, parce que ça va économiser l'eau. Il y a une vraie denrée aujourd'hui qui se fait de plus en plus rare, et le prochain vrai débat à côté des ressources naturelles que sont le gaz et le pétrole, ça va être l'eau. Et donc de plus en plus aujourd'hui, on réduit la consommation d'eau dans un certain nombre d'endroits. Donc voilà, sur les déchets, essayez de privilégier le recyclage, vis-à-vis de l'énergie, d'essayer de diminuer lorsqu'on le peut, et puis vis-à-vis de l'eau, évidemment, de tâcher de faire l'effort. Alors, petit exemple d'action qu'on peut faire, qui est très très simple. Vous connaissez tous Bigard, humoriste français. Donc Bigard a lancé une association qui s'appelle les bouchons d'amour. Donc c'est tout simplement de récupérer les bouchons. Alors vous avez derrière lui tous les bouchons qu'on peut récupérer, de lait, de soda, de jus de fruits et d'eau, pas les autres. Et donc ça sert à deux entreprises européennes très très importantes qui fabriquent des palettes en plastique qui servent notamment dans la grande distribution, lorsque vous voyez ces petits chariots qui amènent dans des palettes d'un tas de produits dans les rayons. Donc ces palettes, elles sont en plastique recyclé et non plus en bois, donc ce qui évite qu'on découpe encore des forêts, etc. Mais surtout, les bouchons qui sont récupérés sont vendus par l'association et elles permettent d'acheter, si on passe à la diapo suivante, un certain nombre de choses. Alors je ne sais pas si on voit très bien. En haut, c'est les chiens d'aveugles. C'est également, alors j'ai vu cette photo d'Andisport, donc de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des matériels pour pratiquer un sport de haut niveau alors qu'ils sont handicapés. Donc c'est les fauteuils roulants, mais c'est aussi les prothèses pour ceux qui courent, ça peut être des béquilles, etc. Mais ça peut être également des choses très très simples, ça peut être des ordinateurs pour des gens qui sont malvoyants, des systèmes d'audition, etc., etc. Donc cette association existe absolument partout, donc nous on travaille avec elle et on a récupéré à peu près 500 kg de bouchons en un mois. Donc voilà, ça c'est une petite, toute petite action que vous pouvez faire chez vous. Donc en général, il y a des points de collecte dans toutes les villes. Il faudrait voir ici sur votre quartier ou votre ville où ça peut se trouver. Alors pour passer à une dernière partie de ma présentation rapide, c'est aussi un petit peu vous dire ce que je fais dans l'entreprise où je suis. Donc, je suis chez TDE, une filiale du groupe Bouygues. C'est la filiale électrique. Et je suis chargé de mission développement durable. Donc sur les questions de l'environnement et questions sociales. Alors vous dire un petit mot si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, ça résume à peu près mon entreprise. Donc le lien entre tout ça, donc c'est en haut à gauche l'ancien Premier ministre anglais, Harry Roselmack, un paquet de bonnes amies, des jeunes filles et puis une vache dans la nature. On assure donc tous les métiers multitechniques liés à la climatisation, la plomberie, l'éclairage public et le déploiement du haut débit. Donc, Harry Rosemach, tout simplement, parce que c'est nous qui nous occupons de la climatisation de l'ensemble de TF1, donc sur ces différents sites. Le Premier ministre, c'est nous qui les gérons en volet multitechnique, l'Home Office, qu'on appelle la résidence du Premier ministre. Et puis, on déploie de l'électricité et du haut débit, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes. Et le paquet de Panzani, c'est tout simplement parce qu'on assure le montage et la maintenance des chaînes de production et de mise en paquet, pas que des Panzani, mais également de certaines industries automobiles, etc. Alors, ce que je fais dans mon entreprise, c'est notamment dans la politique de développement durable qu'on a appelée Actitude, donc comment, à travers des actes, changer un peu d'attitude. C'est un petit peu l'idée de la sensibilisation de ce matin. Je vous entourerai notamment de mes trois fonctions. Donc, de travailler sur la sécurité et la protection de la santé, sur favoriser l'égalité des chances et sur faire participer à la vie économique des territoires sociaux où nous sommes implantés. Alors, moi je dis souvent pour simplifier que ma mission c'est un petit peu de planter des graines durables. Planter une graine, c'est comment amener une action qui sert à un ensemble d'acteurs dans un endroit. Tout le monde est d'accord pour que cette action ait un impact et chacun s'y retrouve. Chacun va tirer quelque chose de cette action, un peu comme dans le commerce équitable tout à l'heure. Et à partir de cette action, de construire quelque chose qui va continuer dans la durée. Alors notamment, je m'occupe beaucoup de ce qui est éco-gestes, donc le déploiement des éco-gestes au sein de l'entreprise. Une entreprise, c'est beaucoup de monde. Et donc, si l'ensemble des personnes qui composent cette entreprise, nous, on est 14 000 au sein de cette entreprise, bon, bah, un petit geste multiplié par 14 000, ça peut faire rapidement beaucoup de choses. Sur le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est le déploiement des énergies renouvelables, notamment les véhicules électriques, donc encourager l'entreprise à plutôt favoriser les véhicules électriques, voire des vélos électriques dans certaines régions. Et puis un dernier volet qui peut-être intéresse certains d'entre vous, c'est le volet RH, donc sur toutes les thématiques de l'insertion des quartiers en difficulté. Et notamment, là, je vais faire un petit focus sur ce que voit Mathilde. Alors, je vous ai mis deux petites diapos qui représentent notamment les quartiers où moi j'aime bien travailler, quartiers qu'on appelle souvent sensibles ou chauds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quartier sensible ? Est-ce que vous savez ? Non ? Un quartier insensible ? Non plus ? Quartier chaud ? Qu'est-ce que c'est qu'un quartier chaud ? Ouais. On brûle, etc. Voilà, vous avez vu, je vous ai mis un petit dessin qui dit « Les sociologues vont arriver d'un instant à l'autre ». Alors moi je suis sociologue, donc notamment, et puis je travaille dans ces quartiers. Alors quartier chaud, quartier froid, quartier sensible, quartier insensible, ça veut strictement rien dire. Moi je préfère personnellement habiter dans un quartier chaud et sensible. Les gens se disent bonjour, on échange, et puis là, ça bouge, il y a de l'émotion. Les quartiers froids et les quartiers insensibles, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc c'est malgré tout une étiquette que le gouvernement a choisie, donc les ZUS, zones urbaines sensibles, il y en a 750 en France. Il se trouve que c'est dans ces zones qu'il y a un taux de chômage très important, mais c'est également là qu'il y a le plus de jeunes. Notre pays aujourd'hui a un vrai problème avec la jeunesse parce que le renouvellement des générations, il y a de plus en plus de personnes âgées et il y a de moins en moins de jeunes. Donc on ne sait pas trop comment ça va s'équilibrer, tout ça. Et sur le métier dans lequel je suis, c'est un métier qui dépend du bâtiment, il n'y a pas de chômage dans le bâtiment, comme dans la restauration et dans la grande distribution, et on ne sait pas où recruter. Donc je proposais à l'entreprise d'aller dans ces quartiers et puis de voir comment on peut recruter des jeunes qui sont effectivement au chômage, etc. Donc je vous ai mis quelques petits exemples de ce qu'on a fait. Si on peut juste passer à l'insertion et au développement durable. L'axe suivante. Voilà, donc peut-être celle d'après, Mathilde. Voilà. Alors c'est, on ne voit pas très bien, mais c'est une photo d'une opération qu'on a menée à Clichy-sous-Bois. Vous savez où est Clichy-sous-Bois ? Ouais, mais c'est où précisément ? Qu'est-ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois ? Voilà, c'est ces deux jeunes qui sont morts dans un transformateur et à partir de là, ça a entraîné toutes les émeutes à travers le quartier. Donc c'est dans le 93, dans le 9-3 pour les intimes. Et donc c'est dans le 93 et c'est un quartier très difficile, et donc après les émeutes, à peu près un an après, moi je proposais à l'entreprise de faire un forum métier pour aller recruter dans ces quartiers un petit peu difficiles. Alors en quoi c'est une action durable ? Donc on a fait travailler les politiques sur le sujet, mais également les associations qui sont basées dans ces territoires, l'éducation nationale, avec le lycée Alfred Nobel qui est à Clichy-sous-Bois, et de voir comment avec l'ensemble des acteurs de la ville, on pouvait monter un forum des métiers du bâtiment où on recrutait. Alors on a rassemblé 150 jeunes, c'est la photo que vous voyez là. On a présenté un film après avec des ateliers qui présentaient les différents métiers. Et de part et d'autre, enfin ça a été une vraie opération intéressante parce que les jeunes ne s'attendaient absolument pas à voir des costards-cravates arriver dans le quartier. Et les costards-cravates en l'occurrence, ben, ils n'avaient pas non plus l'habitude d'aller dans des quartiers où il y a des grandes tours et où il y a des tas de jeunes qui ne viennent pas en costume à l'entretien, mais qui viennent avec un jean blanc et puis un t-shirt Armani. Donc tout le monde était bien habillé, ça s'est très très bien passé, donc l'entreprise a été bien sensibilisée. Et donc on a recruté sur les 150 à peu près 35 jeunes qui avaient déjà travaillé un peu sur le métier, bref, qui avaient envie de venir chez nous. Et c'était une belle opération, donc on a reproduit, alors notamment, si on voit sur le site, voilà, sur cette diapo, on a fait la même chose dans des quartiers, donc à Bordeaux, et probablement qu'on le fera parce qu'on est implanté dans 180 villes, peut-être qu'on le fera un jour à Marseille. Et puis donc j'encourage de plus en plus l'entreprise à se rapprocher notamment des écoles et des lycées, notamment techno, les lycées techniques, pour voir comment lorsqu'on vient dans un quartier et que nos techniciens viennent pour présenter des métiers, bah, en face d'une pierre deux coups, un forum où on présente des métiers et on recrute des jeunes qui ont envie de travailler, en cassant un peu les préjugés qui sont sur la banlieue, et puis d'un autre côté, comment on peut également venir présenter des métiers dans les écoles. Alors pour finir, voilà, je vous ai mis cette image qui a été écrite en Inde par. Ça fait partie de l'album La Terre vue du ciel, de Yann Arthus Bertrand. Juste pour, au-delà de ce que je fais dans l'entreprise, ce qui est important, c'est pour moi de focaliser sur l'importance du vivre ensemble et l'importance de la diversité. Cette diversité, aujourd'hui, on en parle de plus en plus dans les médias, on en parle de plus en plus donc dans les entreprises, on en parle de plus en plus dans les institutions. La Haute Autorité de lutte contre la discrimination existe aujourd'hui. Ce qu'on fait dans les quartiers au sein de mon entreprise, c'est juste un moyen d'intégrer aussi plus de diversité dans l'entreprise. La dernière opération qu'on a fait à Bordeaux, il y a 4 jeunes filles qui sont venues pour faire des métiers où il fallait conduire des grues, où il fallait construire des murs, etc. Donc il y a de plus en plus une féminisation de l'entreprise, il y a de plus en plus des seniors qui rentrent dans l'entreprise, il y a de plus en plus des jeunes des quartiers qui viennent dans l'entreprise. Et je crois que la France, c'est aussi ça. Donc c'est aussi cette diversité qui n'est pas seulement française, mais mondiale. Et donc c'est un vrai sujet sur lequel moi, j'essaie de sensibiliser en tout cas. Et puis donc on va se diriger lentement vers la conclusion, comme on dit dans l'Assemblée nationale. Conclure en vous disant que voilà, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est juste de vous sensibiliser parce que le monde vous appartient. Alors, vous êtes la génération qui va arriver aussi dans le monde du travail. Avec l'importance, je pense que vous êtes aussi une génération numérique, donc vous avez un accès encore plus large que les générations qui vous ont précédé sur l'état du monde et ce qui peut se passer un peu partout. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez discuter avec qui vous voulez à travers le monde. Et donc, ce petit proverbe qui est assez intéressant, la mer est un ensemble de gouttes d'eau, vous êtes une goutte d'eau. Donc la mer, ça peut être dévastateur, c'est une force très très importante. Dans le bien, mais également quelquefois avec les catastrophes qui peuvent se produire, notamment tsunami, etc. Mais de garder un peu à l'esprit que l'union fait la force et que chacun faire des petits gestes ou avoir en tout cas en tête cette idée du développement durable et de le faire tous ensemble, on peut très très rapidement avoir un impact. Et dernière phrase, puis on va vous montrer la dernière diapo. Donc voilà, si on veut continuer à avoir des beaux couchers de soleil et avoir profité de la nature et pas se retrouver comme dans Soleil Vert, je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vous encourage à aller voir Soleil Vert. Ça vous présente à peu près la société qui peut nous attendre d'ici 50 ou 100 ans. Voilà, de faire des gestes qui peuvent changer la nature et d'agir localement, là où vous êtes, mais d'avoir une réflexion globale sur l'état de la Terre aujourd'hui. Et puis pour finir, je vous ai mis, si vous voulez le prendre, un email. Donc n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on se joigne, parce que le développement durable, c'est aussi ça. C'est de tricoter des relations et de discuter entre vous. Voilà, je vous remercie. On a à peu près 30 minutes, madame le proviseur. 30 minutes, donc si vous avez des questions, 20 minutes. On a 20 minutes, si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, très rapidement, sur le volet économique, le volet environnemental, le volet social, le développement durable. Les quartiers sociaux, notamment des centres, etc. Et d'autres sont sur des aspects un peu plus techniques, des métiers liés à l'eau, liés au nettoyage, liés. Alors donc ça, c'est des vrais métiers qui sont en train d'exploser. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous raconte sur les métiers. Donc, moi, je suis en entreprise, dans une grosse boîte du CAC 40, j'ai des milliards. Il y a ces sujets-là, on est en train de les regarder à la vie. Donc, vous êtes sur des vrais sujets, des vrais métiers qui vont avoir une importance très, très importante dans l'avenir. Je vous parlais tout à l'heure des services, mais c'est valable pour l'eau, c'est valable pour la maintenance multitechnique. Aujourd'hui, on ne trouve pas de plombier, on ne trouve pas de gens sur la climatisation, on ne trouve pas de gens sur des métiers liés à l'eau, liés au retraitement des déchets, liés au nettoyage. On a beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas assez de gens formés en France. On forme 30 000 psychologues, mais on n'a pas de gens sur la climatisation.
30 000 psychologues, c'est l'équivalent des besoins en Europe. Donc on a assez pour faire en Europe. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de demandes en psychologie. Par contre, sur ces métiers-là, il y a des vrais enjeux. Donc, soyez content d'être là où vous êtes, dans le créneau sur lequel vous êtes, parce que je pense que d'ici 5 ans sur le marché du travail, vous allez vraiment avoir du pain sur la planche et vous n'aurez pas trop à vous soucier de la vie que vous pouvez avoir sur vos métiers.
Qui est cité ? Quels sont les gestes qui permettent de limiter votre consommation ? Tout en étant aussi bien. Alors, allez-y, vous voulez ?
J'ai toujours fait des choses à... Vous avez la main, peut-être. Il y a des classes qui ont mis en place des choses déjà.
Bien sûr.
Oui, les bacs.
Bah alors,
vous avez les bacs. Bonjour. Vous avez les bacs projet d'environnement, la case terminale, justement. On travaille dans le cadre d'un projet d'un TCCP, vers un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel. Donc, nos élèves de bac projet environnement ont travaillé dans le cadre du développement durable et donc dans la formation, donc dans une formation, ils ont un enseignement dans les sciences et technologies de l'environnement et ils ont mis en place depuis 4 ans nous travaillons dans le cadre du développement durable. Donc, j'aimerais bien que l'un d'entre eux se lève et parle. Ce que nous avons fait déjà l'an dernier, cette année, toutes les actions que nous avons mises en place, ne serait-ce sur l'exposition de Yann Arthus-Bertrand. Donc, les élèves ont commenté chaque exposition pour l'ensemble des élèves du lycée, donc pour les centres d'idées justement la protection de l'environnement. Et cette année, je vais passer à la parole à un des élèves qui va. Caroline est par là. Qu'elle va dire ce qu'on avait fait en septembre dans le cadre de la mobilité durable. Voilà.
Non mais attendez, c'est des actions géniales, alors je ne sais pas. Hein.
Avec ma classe de la THE, nous avons fait un jardin déjà écologique. Nous avons pris ni de produits ni rien, nous avons tout fait à la main. Puis au mois de novembre, nous avons fait une exposition sur Yann Arthus-Bertrand. Vous avez vu quelques photos dessus. C'est lié au développement durable. C'est des pays qui n'ont pas d'eau ou tout ce qui est énergie renouvelable comme l'électricité et tout ça qui peut être produit par les éoliennes. Et
le vélo.
On a aussi une journée vélo pour mobiliser les riverains à utiliser plus le vélo que les voitures pour moins polluer. Quoi. Et vous avez aussi fait des ateliers sur l'ozone, tout ça, pour mobiliser aussi les élèves à moins polluer, pour savoir l'impact qu'il y a la pollution sur notre planète.
Alors, s'il y a des personnes chez elles ou ici, déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait cette action du lycée ? Ceux qui étaient au courant, levez la main. L'action du lycée.
Yann Arthus-Bertrand.
L'expo, le jardin écolo. Vous étiez au courant ?
On est passé l'exposition.
En tout cas, bravo. Puis moi, je tiens à saluer les professeurs qui sont là et qui vont transmettre déjà le savoir, ce qui est un transfert durable inestimable. Vous le saurez plus tard. Vous n'êtes pas conscient aujourd'hui. Moi, j'ai eu envie de venir travailler à l'école parce que j'ai eu un professeur d'histoire en 6e qui était un peu comme Indiana Jones. Il parlait, donc il faisait la moitié de l'année professeur et puis l'autre moitié, il partait en Amazonie, en Grande-Bretagne, etc. Donc voilà, le transfert du savoir aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Il y a des tas de gens qui ont travaillé aujourd'hui à travers le monde et qui n'ont pas appris à lire et à écrire. Et donc, enfin voilà, je tiens à saluer les professeurs, madame le proviseur, toute l'équipe pédagogique et pour avoir le plus grand respect pour eux. Est-ce que sur les gestes écolo chez vous, vous faites des petites choses ou pas les uns les autres? Alors, dites. Non, mais il faut le dire, tout ça, c'est des choses, c'est du positif à faire. Hein. Non, enfin voilà, donc il y a plein de petits gestes à faire. Donc les bouchons dont je vous parlais, ça en fait partie. Et notamment les postes, enfin, sur l'éclairage, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, c'est très important. La prochaine fois que vous allez dans un supermarché chercher le point où il y a les produits équitables, c'est souvent à peu près le même tarif, et c'est souvent plus bon, parce que c'est des produits bio, c'est des produits, voilà, dans le film, vous avez vu un peu l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire autour des éco-gestes, publier une petite plaquette, ou tout ce qu'il faut. On a fait ça au sein de l'entreprise, on a rassemblé des 10 petits gestes faciles à faire avec des petits autocollants. Donc on a collé près de tous les lavabos, je ne gaspille pas l'eau, près des interrupteurs, j'éteins la lumière. Parce que même si on y pense, voilà, des fois on a des choses dans la tête, on ne fait pas attention. Et donc ça c'est une action qui est simple, donc je ne sais pas, j'en suis doué là, au professeur peut-être, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions?
Moi,
donc,
pourquoi je
n'avais été
en
cours de
vous en parler?
Non. Les
professeurs,
vous avez un problème. Je voulais également rappeler que notre établissement, et Mme Boileau est là, grâce à Mme Boileau, notre établissement s'est engagé dans la démarche Agenda 21. Donc, c'est l'agenda du 21e siècle. Donc, nous avons, et surtout, c'est la classe de bac pro qui travaille dans cette démarche, naturellement en collaboration avec les enseignants et avec le soutien de notre administration. Et nous sommes en train de faire un diagnostic au sein de notre établissement, diagnostic au niveau de l'énergie, au niveau des déchets, au niveau de la biodiversité, voir ce qui a été mis en place pour que par la suite, après l'analyse, nous allons mettre en place quelques petites actions. C'est un démarrage pour que notre établissement s'engage dans cette démarche Agenda 21 et nous sommes parrainés par notre région PACA. Voilà. Peut-être Mme Boileau pourrait rajouter quelque chose.
Merci. Je n'ai pas trop grand-chose à rajouter parce que Mme Saïd a dit l'essentiel, mais il est vrai que très modestement, les enseignants de ces matières en particulier, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bacs, hygiène et environnement en particulier, sont des enseignants qui sont beaucoup investis, même avant que l'agenda 21 nous fasse des propositions pour entrer dans leur programme. C'est-à-dire que la collecte des bouchons, nous la faisions, au lycée La Vista. La collecte des papiers, nous la faisions au syllabiste, et cet agenda 21 ne fait que concrétiser, reconnaître le travail qui se fait depuis quelques années déjà au lycée. Merci.
Moi, je voudrais m'adresser aux jeunes, là. Les terminales bac pro vont partir, donc on compte sur vous pour prendre le relais. L'année prochaine, nous serons plus là. C'est à vous à mobiliser d'autres classes, puisque je vois qu'il y a des secondes MHPE, il y a des TMHPE qui peut-être vont passer en bac pro. Donc, c'est à vous à prendre ce relais. C'est très important pour que l'action continue dans l'établissement. Vous avez entendu ce que je dis. C'est primordial pour le lycée.
Une petite idée que je vous souviens qui existe déjà, je l'ai fait via une association, mais on travaille dans des lycées pour voir des jeunes des quartiers qui ont réussi, qui reviennent dans leur quartier, dans le lycée où ils étaient, pour raconter leur métier. Donc ils sont devenus telle chose, créateurs d'entreprise, etc. Et on a découvert justement que dans certains lycées, il y avait un programme qui s'appelait ambassadeur écologique ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était à chaque niveau intermédiaire, donc c'était les premières pour le lycée, c'était les quatrièmes ou les cinquièmes pour le collège. Donc c'est des groupes d'élèves qui représentent leur classe et qui réfléchissent à des petits gestes pour l'environnement, pour l'écologie, souvent dans des agendas 21. Et ce qui permet que, comme ils sont centraux, ils sont un petit peu entre les sixièmes et ceux qui vont s'en aller. Et donc c'est assez intéressant, donc, peut-être pour ce que vient de dire madame le professeur, ça peut valoir le coup que les ambassadeurs, c'est peut-être un grand mot, mais les représentants intermédiaires.
J'ai oublié de parler des APA, hein, Jean, voilà.
Alors, les APA, ça reste ainsi, attendez une seconde. On a parlé des écarts de richesse entre le Nord et le Sud. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? On a vu, qu'est-ce que ça entraîne, ces écarts de richesse entre le Nord et le Sud? Ça entraîne des gens qui font des grands voyages, qui changent en droit simplement pour avoir des conditions de vie qui soient bonnes. Et, bon, et on a une classe qui est des gens qui ont fait des grands voyages. Et peut-être il y en a qui seraient assez courageux pour dire des choses qui se sont dites en classe et qui doivent interpeller le lycée. Est-ce qu'il y a des gens assez courageux pour arriver à le dire là, aujourd'hui sur l'interpellation de... d'une volonté d'égalité là, hein.
On pourrait le dire là, on pourrait essayer de le dire.
Allez, Jean-Luc, vas-y.
Et si, parce que si vous le dites pas là, c'est formidable si on a pu discuter. Alors, qu'est-ce qui est fait de le dire là?
Sur la solidarité.
Alors, là vous êtes...
C'est d'accord.
Allez, on essaye.
C'est
qui essaye là? Ils ont besoin de quoi au sein du lycée?
Qu'est-ce que tu as besoin au sein du lycée? Tu n'es pas tout seul, mais tu n'es pas tout seul au niveau de cette classe. Vous avez besoin de quoi? Les gens ont plus de...
Puisque c'est venu dans la classe, c'est ensemble. Allez. Besoin de faire connaissance, pas d'affectivité. Et si on dit de quoi vous n'avez pas besoin, de quoi vous n'avez pas besoin, parce que c'est très important, vous l'avez dit. Donc qu'est-ce que vous voulez pas? Qu'est-ce que tu veux? Très bien, ils ne veulent pas de mise à l'état.
Des amis.
Ah. Voilà, le message. Est-ce que le message est clair?
Oui.
Ok.
Bon, ben voilà, si vous, peut-être qu'on peut demander aux gens de lever la main, ceux qui sont dans la classe depuis au moins. Comme ça, on les reconnaît pour les autres, et puis vous savez qui c'est, comme ça. Donc voilà, on peut les repérer. Donc pourquoi ils savent si vous êtes avec eux à la cantine
Voilà, peut-être pour conclure, voilà, je voudrais vous remercier, je suis content d'être avec vous, d'avoir partagé ce moment. Donc, merci au lycée d'avoir organisé cette émission.
Merci
pour
ça. Merci, c'est à midi, j'ai peur.
Marie.
Bon appétit.
Thank you.